Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et il fut un temps où la cité d'Alger, pour environ 100 000 habitants, comptait plus de 25 000 esclaves, des esclaves blancs et chrétiens capturés par les pirates barbaresques. Alors vous imaginez déjà ce que Franck Ferrand va pouvoir tirer de tout cela. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. C'est un roman qui m'a donné envie de vous reparler d'Alger au temps des pirates. Un roman qui nous fait revivre la captivité du célèbre Cervantes, l'auteur de Don Quichotte. À la fin du XVIe siècle, nous allons évidemment en reparler tout à l'heure.
Mais je crois que pour commencer, l'histoire que vous avez choisi de nous raconter ne concerne pas Cervantes.
Non, je vais vous narrer la mésaventure tout aussi authentique d'un jeune flamand de Bruges, Jean-Baptiste Van Kaloon, dont le sort fut pire encore que celui de l'écrivain espagnol. Si vous aimez les coups de théâtre, les rebondissements, vous allez être servi.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
À cette époque, Cervantes est mort depuis 25 ans, mais déjà sa gloire est immense, notamment dans le comté de Flandre, qui en ce début de XVIIe siècle se trouve sous domination espagnole. Tout le monde à Bruges connaît l'histoire de la captivité du poète prisonnier des pirates d'Alger. Du reste, la barbarie des esclavagistes algérois est un sujet courant de conversation dans la Flandre de l'époque. Notamment, un prêtre anversois du nom de Gramaille a publié un ouvrage très connu, un ouvrage qui dénonce les excès des pirates d'Alger, une ville d'Alger, que cet auteur décrit comme un horrible repaire de pirates. Il faut croire que ce n'est pas suffisant pour décourager les Flamands de voyager, surtout les jeunes gens de bonne famille qui, aventureux comme on peut l'être à leur âge, ont pris l'habitude de s'en aller visiter, à l'issue de leurs études, la métropole espagnole. C'est exactement le cas du jeune Jean-Baptiste Van Kaloon. On est le 15 août 1640 lorsqu'il prend congé de sa famille pour partir à son tour, au milieu d'un groupe d'amis de son âge, vers les cieux castillans et andalous. À l'époque, c'est la grande aventure, évidemment. Le groupe d'amis dont je parle compte, outre Jean-Baptiste, un chevalier flamand, Philippe de Cerf, un médecin tout juste diplômé, Rémy Saldens, et un tout jeune docteur en droit, Emmanuel de Aranda. Ce dernier porte un nom espagnol, mais il est bien natif de Bruges, comme les autres. Les quatre garçons vont passer plusieurs semaines heureuses à s'amuser dans la péninsule ibérique. Ils sont remontés de Madrid jusqu'à San Sébastien, et là, ayant fini leur séjour, ils ont trouvé, pour les rapprocher de la Flandre, un navire anglais qui, moyennant un petit pécule, les a pris à son bord. Le voyage est un peu chaotique, ça ressemble à du cabotage. Vous savez, on est dans le golfe de Gascogne. Quand ils arrivent à hauteur du pertuis d'Antioche, vers La Rochelle si vous voulez, le capitaine anglais reçoit la nouvelle, et ça c'est une nouvelle toujours très inquiétante, de la présence d'une flottille turque aux abords de la Manche. Attention, quand on emploie ce mot de turc, à l'époque, l'Empire ottoman est à son apogée et le terme de turc désigne aussi bien les Turcs eux-mêmes que les Berbères et les Arabes du pourtour méditerranéen. Pour désigner les habitants du Maghreb, les Européens emploient indifféremment les termes de Turc, de Maure. Donc, des pirates, sans doute originaires d'Alger, ont été signalés aux abords des côtes anglaises. Le capitaine du navire qui transporte Jean-Baptiste et ses amis devrait se méfier, seulement, vous connaissez les marins anglais, ils ne se laissent pas si facilement intimider, ils passent outre au conseil. Et en vérité, on peut dire que sa confiance est trop grande et qu'elle va le perdre. Elle confine même à la bêtise. 3 jours plus tard, quand 2 navires sans pavillon abordent le sien, il néglige de faire armer l'équipage. Les pirates n'ont donc aucun mal à se rendre maître du navire anglais. Ces pirates barbaresques, c'est le nom qu'on leur donne à l'époque, dépouillent les passagers de toute leur valeur, mais ils ne s'en tiennent pas à ça. Ils font le tri parmi les passagers, ils mettent de côté les hommes sains et vigoureux qu'ils transbordent dans la cale de leur propre navire. Évidemment, Jean-Baptiste et ses compagnons de voyage font partie du lot. C'est une catastrophe pour eux, mais à ce stade, ils peuvent encore garder confiance. Vous savez, on est à une époque où les enlèvements, les raptes, etc. sont monnaie courante, et ces garçons se disent puisque leur famille ayant les moyens, eh bien, ils vont être rachetés assez vite contre rançon. Les voilà donc qui rebroussent en chemin malgré eux, sont en route pour Alger. Heureusement pour leur morale, ils n'ont pas lu les fameuses pages de Gramaille dont je vous parlais tout à l'heure. À Alger, écrit celui-ci, on fait subir aux esclaves les traitements les plus odieux. Si un chrétien a le malheur de commettre le moindre faux pas, il est soit brûlé, soit écorché vif, ou bien crucifié, voire empalé par le fondement, ce qui constitue le comble de la barbarie. Pour le moment, Jean-Baptiste et ses amis, enchaînés les uns aux autres, sont encore loin d'imaginer tout ça, et c'est presque avec une certaine excitation, en tout cas avec le sentiment piquant de l'aventure, qu'ils voient se dessiner à l'horizon le port d'Alger avec ses belles constructions toutes blanches.
Barbaresque composé par Michel Paul Naref, extrait de la bande originale de La Folie des Grandeurs. Vous restez avec nous. Dans un instant, on retrouve Franck Ferrand pour la suite d'Au cœur de l'Histoire.
Franck Ferrand sur Europe 1, Au cœur de l'Histoire.
Un récit qui retrace l'histoire de jeunes flamands kidnappés par les pirates d'Alger, Franck.
Et oui, on est un petit peu avant le milieu du XVIIe siècle. Et nos quatre flamands ont donc été conduits, ils ont été débarqués, évidemment, en arrivant à Alger. Et ils sont conduits au milieu d'une foule qui les conspue, qui leur crache dessus, jusqu'au Badistan, qui est le marché aux esclaves. Ils sont complètement choqués, sidérés de la violence de cet accueil. Ils doivent subir une exhibition humiliante, ils sont exposés, scrutés, palpés comme des chevaux par une foule très hostile. Et Jean-Baptiste et ses copains n'en croient pas leurs yeux, ils sont littéralement sonnés par ce qu'ils viennent de découvrir. On les conduit ensuite chez le Bassa. Le Bassa, c'est le gouverneur d'Alger qui statutairement a le droit de prélever un esclave sur 8. Alors le jeu pour le Bassa, c'est de deviner celui dont la rançon pourrait être évidemment le plus intéressante. Donc il interroge les prisonniers et le chevalier de Cerf n'ayant pas caché ses origines nobles, c'est lui qui est retenu, bien entendu. Ce qui fait que les trois autres sont ramenés comme des bêtes au marché aux esclaves. Et là, nouvel examen des muscles, de la dentition, etc. Jean-Baptiste est plutôt beau garçon, il trouve tout de suite acquéreur, mais au moment où son nouveau propriétaire s'apprête à l'emmener, alors là c'est plus l'aventure, là c'est carrément le cauchemar, contre ordre, il est renvoyé avec ses deux compères devant le Bassa pour un nouvel interrogatoire. Alors là, les trois compères se font passer pour des domestiques du chevalier. Le Bassa finit par y perdre un peu le nord et il remet à l'un de ses officiers les trois prisonniers. L'officier en question s'appelle Ali Pégéline. C'est lui qui va les transférer au bagne. Alors attention, quand on parle de bagne, nous aurons dans la deuxième partie de cette émission l'occasion d'y revenir plus en détail. Il s'agit d'une sorte d'immense prison à ciel ouvert où sont entassés des centaines de chrétiens de toutes nationalités. Il y a surtout des Espagnols. Bien sûr, il y a une certaine discipline. Il y a des gardiens qui font régner un semblant d'ordre à coups de bâton et à coups de fouet. Mais dans l'ensemble, les esclaves jouissent à l'intérieur du bagne, non pas d'une certaine liberté, ce serait excessif, mais en tout cas, ils ne sont pas en cellule. Vous voyez, il y a une espèce de... C'est quand même une sorte d'anarchie qui règne au milieu de tout ça. Alors, pendant la journée, les esclaves sont soumis aux travaux forcés. Et pour ce qui est de nos trois flamands, ils travaillent à la corderie de Babel Oued. Aranda est d'une nature assez frêle. Il pourrait vraiment pâtir et voire mourir assez vite du traitement infligé. Seulement, il y a là le robuste Rémy Saldens qui fait la moitié des corvées à sa place. Et puis le soir, eh bien, à l'intérieur du bagne, les esclaves jouissent donc d'un semblant de liberté. Il y a là des tavernes où l'on consomme beaucoup d'alcool, cet alcool saisi par les pirates et que leur religion leur interdit de boire. Les semaines passent. Un soir, lors d'une beuverie, un esclave flamand qui s'appelle Lennartz raconte à Jean-Baptiste qu'il a été employé à décharger un navire saisi par les pirates, un navire en provenance de Dunkerque. Et là, un passager captif lui a demandé des nouvelles de deux brugeois, Aranda et Van Kaloun. Ah, mais ça, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on s'occupe de leur sort, que leurs familles sont déjà à leur recherche. Mieux que ça, Lennartz affirme que des amis de Jean-Baptiste ont fait le voyage jusqu'à Malaga en vue de négocier son rachat et celui de ses compagnons. Alors les semaines passent encore, des mois entiers. Maintenant, les captifs connaissent assez bien la langue arabe pour se faire comprendre et Jean-Baptiste parvient à se faire conduire avec Emmanuel d'Aranda chez son propriétaire, Ali Pejelin. Il parle de ses amis qui sont à Malaga, il lance une transaction, si vous voulez. Et là, le propriétaire accepte, c'est assez inattendu, il demande simplement 1700 patacones pour chacun. Les patacones, c'est la monnaie locale. 1500 seront payables au départ d'un navire qui doit les conduire jusqu'à Livourne. Jean-Baptiste est d'une famille de négociants, il sait négocier. Il dit non, 500 patacones est payable seulement à l'arrivée. Ali Pejelin demande du temps pour réfléchir. Après tout, il doit partir en voyage, il donnera une réponse à son retour. Et voilà donc Jean-Baptiste et Emmanuel ramenés au bagne.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Précisément au cœur de l'histoire de jeunes flamands captifs des pirates d'Alger, Franck.
Eh oui, des esclaves blancs au XVIIe siècle. Alors, quelques semaines après leur transaction manquée avec leur propriétaire, nos esclaves reçoivent la visite au bagne de deux Turcs, alors si l'on peut dire, libérés de prison dunkerquoise. L'un des deux s'appelle Kataborn. Tous ces noms, évidemment, ont été d'abord flamisés, puis francisés hein, par les traductions et les éditions. Je vous dirai un mot tout à l'heure du récit dont je tire ces aventures. Donc, en tout cas, nos amis reçoivent comme ça des nouvelles de la Flandre et de leurs parents respectifs. Et les deux Turcs leur affirment que les transactions sont en bonne voie et qu'eux-mêmes ont été renvoyés chez eux contre la promesse de la libération des Brugeois. Vous imaginez la fête, c'est une énorme fiesta dans une des tavernes du bagne. En fait, les braves messagers se sont un peu avancés. Le lendemain matin, les deux esclaves sont menés sans aucun ménagement jusque chez le Bassa, mais ce n'est pas le gouverneur qui les reçoit, c'est son maître d'hôtel qui les roue de coups, les insulte pour avoir osé parler à Kataborn. Jean-Baptiste intervient. Nous savons que le prince Mustapha, ça il l'a appris donc hier, la veille hein, dans la conversation, le prince Mustapha, l'oncle de votre Bassa, est prisonnier à Dunkerque. Il est à la merci des nôtres, argumente-t-il. Le maître d'hôtel voit rouge, il promet à Jean-Baptiste de revenir dans la soirée pour lui couper le nez et les oreilles. Alors là, Jean-Baptiste doit aller très vite. Il écrit un message, enfin plutôt il dicte un message pour la grand-mère du Bassa, la mère du prince Mustapha, et il affirme que son fils captif à Dunkerque, sera tué si on lui fait à lui ou à son camarade le moindre mal. C'est assez efficace cette petite missive, parce qu'en fait on va les laisser tranquilles un moment. Et dans la foulée, Aranda et Saldins sont achetés par Kataborn pour 500 patacones. Ils vont donc pouvoir vivre dans une semi-liberté, mais sans pouvoir rentrer chez eux pour autant, car pour ça il faudrait payer l'indemnité, il faudrait rembourser les 500 patacones. Quant à Jean-Baptiste, il va payer son audace. Puisqu'il est entré en relation épistolaire avec la grand-mère du Bassa en personne, eh bien son propriétaire décide de le revendre à celle-ci pour 1400 patacones. Le voilà du coup jeté en cellule dans un cul de basse fosse. On lui a même rivé à la cheville une chaîne avec un boulet de 80 livres. Et c'est là que plusieurs semaines encore plus tard, il va recevoir la visite d'Emmanuel d'Aranda, qui donc est devenu quasi libre, même encore plus libre qu'il n'y paraissait grâce à la condamnation pour débauche du fameux Kataborn. En fait, il appartient maintenant à un nouveau maître qui s'appelle Mahomet Selibi Hoïga et qui l'emploie uniquement à la conversation. C'est pratique ça finalement. Il compare avec lui les mérites respectifs des religions chrétiennes et musulmanes. Aranda se trouve porteur d'une grande nouvelle. Rémi Saldens, qui a été libéré depuis des semaines, serait arrivé au Maroc espagnol avec les fameux 5 Turcs emprisonnés à Dunkerque, dont le prince Mustapha. Ça va pouvoir constituer une monnaie d'échange extrêmement utile. Les négociations peuvent commencer. Jean-Baptiste, je vous l'ai dit, est un bon négociateur. Seulement, la vieille mère du prince Mustapha demande 700 patacones de plus pour libérer Jean-Baptiste. Et devant le refus du jeune homme, qui ne veut pas ainsi brader la fortune familiale, eh bien, non seulement elle le maintient en prison, mais elle fait emprisonner avec lui Aranda, qui du coup a tout perdu dans l'affaire. Finalement, après bien des péripéties, la vieille femme acceptera de libérer les deux captifs en échange de son cher fils. On pourrait croire à ce moment-là que pour les jeunes flamands, l'aventure touche à sa fin. Eh bien, pas du tout. D'abord, ils ont dû quitter Alger par voie de mer et ils ont été ramenés à deux reprises dans la ville par des vents contraires. Il faut savoir que c'est très difficile de quitter le port d'Alger. Les vents sont souvent des vents de nord et nord-ouest. Puis, les captifs vont être victimes d'une révolte de chrétiens à bord d'un troisième navire. C'est-à-dire qu'au moment même où ils allaient être libérés, ben voilà que leurs compagnons chrétiens se révoltent. Ils sont ramenés, encore une fois, à Alger. Et ils vont pouvoir quitter Alger quelques semaines plus tard seulement à bord d'un quatrième navire. Seulement là encore, ils essuient cette fois une tempête terrible et manquent de se noyer enfermés qu'ils sont dans une cellule de proue. Or, au moment où ils parviennent néanmoins à Tétouan, donc au Maroc, à une encablure de la frontière espagnole, les deux garçons qui se croyaient cette fois enfin libres sont pris par des marchands d'esclaves bien plus durs encore que ceux d'Alger. Et Jean-Baptiste et Emmanuel sont jetés dans une prison terrible, la Masse-Mort, où ils vont croupir couverts de chaînes pendant des semaines encore, à peine alimentés. Ce seront peut-être les pires semaines de toute leur captivité. Il faudra que Rémy Saldens accomplisse un véritable exploit de négociation pour qu'ils finissent enfin par recouvrer la liberté. Ils passent en Espagne et là, ils vont remonter par Paris, Rouen, Douvres. Ils font la traversée, hein, puis de nouveau traversée jusqu'à Dunkerque, jusqu'au comté de Flandre. On est à ce moment-là à l'été 1642. Leur incroyable aventure aura duré exactement 2 ans. L'histoire de ces esclaves brugeois, on la connaîtra grâce à Emmanuel de Aranda qui la couchera par écrit et ça va donner naissance à l'un des plus grands succès de la librairie du XVIIe siècle, ce récit d'Emmanuel de Aranda dont j'ai tiré simplement la substantifique moelle.
Entgegen fliegende Chöre, singt in der Liebe Freude ins Herz.
Un extrait sur Europe 1 de l'enlèvement au sérail de Mozart.
Alors d'un succès de librairie à un autre, je vous propose de faire un bond de quelques décennies en arrière et de revivre cette fois en compagnie du romancier Olivier Weber la captivité chez les pirates d'Alger d'un esclave bien plus célèbre que notre Jean-Baptiste puisqu'il s'agit de Miguel Cervantes en personne.
Jusqu'à 14h sur Europe 1,
plongé au cœur de l'histoire. Avec Franck Ferrand.
On vous retrouve Franck avec votre invité aujourd'hui sur Europe 1, Olivier Weber, qui est auteur du Barbaresque aux éditions Flammarion.
Olivier Weber qui est grand reporter, grand voyageur et lauréat du prix Albert Londres, ça pose son nom. Vous avez beaucoup baroudé Olivier Weber. On peut imaginer qu'en d'autres temps, vous auriez pu vous être fait prisonnier par les pirates d'Alger.
Je ne sais pas. Et malheureusement, j'ai vu beaucoup de confrères évidemment être enlevés avec... évidemment les reportages avec les difficultés d'opérer sur des théâtres comme l'Afghanistan, l'Irak, ça devient compliqué. Cela dit, il y a aussi des cas d'enlèvement de journalistes par des pirates, évidemment, enfin un peu moins en Somalie, mais surtout dans ce qu'on appelle le détroit de Malacca.
Oui,
c'est
sûr,
l'autre grand théâtre de piraterie en face de la Thaïlande, pas très loin de Singapour et entre l'Indonésie et la Malaisie.
Alors il se trouve que vous êtes vous-même ambassadeur itinérant chargé de la lutte contre la traite des êtres humains pour l'ONU. On en parlera à la toute fin de cette émission parce que si l'on parle d'esclaves, et j'aime bien élargir cette notion et montrer qu'il y a toutes sortes d'esclaves à toutes sortes d'époques. Mais malheureusement, l'esclavage peut encore être considéré comme un fait d'actualité.
Oui, oui, malheureusement, l'esclavage perdure dans différentes régions du monde. Enfin, on peut penser à l'Asie, on peut penser au Pakistan, à l'Inde, une sorte de ce qu'on appelle le bond labor, c'est-à-dire le travail forcé, le travail d'attachement où des paysans payent la dette de leurs parents, de leurs grands-parents. Et puis, bien sûr, l'Afrique avec des structures féodales très, très dures. En Afrique de l'Ouest, je l'ai vu moi-même pour des reportages pour Le Point, mais aussi pour la télévision et pour un livre au Sud-Soudan où des esclaves d'Inca, des jeunes garçons d'origine chrétienne ou animiste étaient faits captifs en fait par ce qu'on appelait les Janjaweed, les cavaliers du nord, de la partie arabe du Nord-Soudan et de Khartoum. Et donc l'esclavage perdure, c'est un fléau et il faut lutter contre cela parce que malheureusement, très souvent, des maîtres, des dominants, des puissants, des seigneurs, des propriétaires fonciers ont tendance à considérer l'homme comme étant du bétail. Et cela perdure malheureusement.
Oui, ça existe encore de nos jours. Alors, ce très beau roman, Le Barbaresque, que vous publiez chez Flammarion, met en scène un personnage extrêmement célèbre, puisqu'il s'agit du plus grand écrivain espagnol, un des grands maîtres de la littérature et de la culture européenne, Miguel Cervantes en personne, le futur auteur du Don Quichotte. Il se trouve qu'à l'époque où il avait 27 ans, il rentrait de Naples, il rentrait en Espagne, et à peu près à hauteur de la Camargue, enfin au large des côtes françaises, il a été capturé avec son frère, Rodrigo. Il a été capturé par les pirates d'Alger, et lui aussi a su ce que c'était que de débarquer à Alger, que d'arriver dans cette ville où un habitant sur quatre était esclave.
Oui, c'est une histoire incroyable, puisque Cervantes, qui avait un tout petit peu plus que 27 ans, donc rentré comme étant l'un des héros de la fameuse bataille de Lépante, il avait séjourné assez longuement en Italie, et en fait, pourquoi avait-il
la bataille de Lépante, qui était une bataille navale dont le but, aux yeux en tout cas de la chrétienté coalisée, était justement de mettre fin aux exactions des pirates.
Tout à fait, d'une part, et puis de venger la prise de Constantinople, d'Istanbul, évidemment, donc par les Turcs et par le Grand Turc, donc le sultan ottoman. Et donc, Cervantes rentre en Espagne. Pourquoi il rentre? Parce qu'en fait, il l'avait fui, puisqu'il s'était battu en duel contre son rival, le rival qui lui avait ravi sa fiancée. Et il avait blessé le rival lors du duel, et le juge lui a dit, mais grosso modo, c'est l'exil ou la prison, voire la mort. Donc il a préféré l'exil. Cervantes est parti, puis en revenant dans la brume, sa flottille se perd. Il se retrouve avec deux autres bateaux, il perd les sept autres de la flottille de 10 nefs et galères. Et donc il est fait prisonnier dans la brume par des pirates qui attaquent. Et rendez-vous compte, à l'époque, se faire aborder par des pirates, c'était pratiquement une mort certaine. Et donc Cervantes arrive, fait prisonnier avec son jeune frère, Rodrigo, qui a 2 ans de moins que lui, qui a donc un peu plus que 25 ans.
Ils sont très, vous décrivez une relation très fusionnelle entre ces deux frères.
Hein. Très fusionnelle et très, très très forte, puisque évidemment la captivité les a davantage soudés. Et d'ailleurs, quand on en parlera peut-être tout à l'heure, quand Cervantes est libéré, il donne sa place en fait, d'abord à son jeune frère Rodrigo. Et donc tous les deux arrivent devant cette belle ville qui s'appelle Alger, qui est tout
Alger, en étage. Alger déployait ses couleurs à profusion, écrivez-vous, avec son enchevêtrement de maisons, son mariage de teintes nacrées et bigarrées, sa succession de toits plats et de minarets pointés vers les cieux. Les rues étaient aussi étroites que la montée vers la demeure d'El Coro. On pouvait voir la mer, le port et les bâtiments au repos dans la rade. Un soleil d'automne envahissait les terrasses et les jardinets. Je fus surpris, et c'est lui qui parle, par l'abondance de l'eau qui descendait des collines par les caniveaux pour pénétrer jusque dans les grandes maisons, faites de pierre pour la partie basse et de briques recouvertes de chaux pour la partie haute.
Oui, alors c'était ça, c'était une ville tout en étage, comme un amphithéâtre sur la mer, et totalement tournée vers la mer, comme si elle se déployait sur la Méditerranée, prête à avaler littéralement la Méditerranée, avec ce port en bas, cette rade, ces galères de captifs également, puisqu'on piquait en quelque sorte les bateaux aux moines, aux missionnaires, aux galériens, aux commerçants, aux Espagnols, Corses et Catalans qui revenaient dans leur pays d'origine. Et donc cette ville était tout entière tournée vers la rapine, vers le vol, etc. Et Cervantes arrive avec son frère dans cette ville. Il se dit, évidemment, je vais connaître le pire des châtiments. Et il s'aperçoit finalement que d'abord, les pirates, aussi barbares étaient-ils, puisque barbare a fait le mot barbaresque, etc., de barbarie.
On parlait barbarie aussi pour désigner la région.
Toute la région, mais en même temps, beaucoup de ces pirates étaient des chrétiens convertis à l'islam, en fait des renégats. Il y avait même un juif à un moment qui était raïs, c'est-à-dire capitaine de la flottille des pirates. Et il se mettait au service du grand turc, mais bon, avec beaucoup d'éloignement, le grand turc était donc le sultan.
Il était très loin là-haut. Hein.
très très loin, absolument, à Istanbul, finalement, contrôler assez difficilement ces marches compliquées de l'Empire. Ce qu'il voulait, lui, le sultan, c'était de l'impôt, en quelque sorte, du fisc. On lui payait tribut et rançon, et puis pour le reste, on laissait les pirates faire ce qu'ils voulaient. Et donc, Cervantes arrive dans cette ville, il va à ce que vous décriviez tout à l'heure, à la place du Badistan, donc on regarde...
Oui, alors il y a presque 50 ans d'écart entre les deux histoires, mais franchement, c'est la même chose.
Ouais. On regarde la dentition, effectivement, les mâchoires, les biceps, etc. Et puis, on trie en quelque sorte la marchandise. Sauf que, évidemment, c'est un peu comme dans Astérix, il y a deux sorts pour les captifs et les proies des pirates. C'est la chaume, c'est-à-dire les galériens, ceux qui finissent au fin fond des galères, espérance de vie très limitée.
Très faible, oui.
Très faible, on mangeait pratiquement pas, on était à fond de cale.
On s'épuisait jusqu'à la mort.
On s'épuisait jusqu'à la mort, etc. Et, bien sûr, après, les hidalgos, les seigneurs, les chevaliers comme Cervantes, mais pas seulement, il y avait des Corses parmi les prisonniers, des Italiens, des Catalans, etc., des Siciliens, et on les appelait donc des captifs de rançon. Et donc, eux étaient monnayables et échangeables contre des espèces sonnantes et trébuchantes, comme quoi les pirates de Somalie d'aujourd'hui n'ont rien inventé. Et tenez-vous bien, la rançon de Cervantes est à l'époque 500 écus d'or. Il faudrait peut-être faire le calcul en pouvoir d'achat d'aujourd'hui. Ça doit représenter, je pense, bien plus que des dizaines de milliers d'euros, je pense des centaines de milliers. Et c'est la mère de Cervantes, c'est le père qui était quelqu'un endetté jusqu'à la moelle, si je puis dire, il était chirurgien, qui ont tout fait pour racheter leurs deux enfants.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Rêver un impossible rêve. Porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer. Même trop, même mal, tenter sans force et sans armure d'atteindre l'inaccessible étoile, telle est ma quête.
Jacques Brel sur Europe 1 avec un extrait de La Quête, Franck.
Eh oui, on est dans Don Quichotte et donc dans Cervantes, évidemment. Cervantes qui, comme nous l'expliquait Olivier Weber, a bénéficié pendant cette captivité algéroise de conditions plutôt favorables, si on les compare en tout cas à ce qui était le lot commun.
Oui, plutôt favorable parce qu'il était donc captif de rançon, donc il valait très cher en quelque sorte et il fallait vraiment, vraiment le préserver. Alors, ce qui était le cas de son petit frère également, Rodrigo. Oui. Alors, et simplement pour ce que vous disiez tout à l'heure, oui. Donc il y avait un habitant sur quatre, qui était captif. C'était un butin incroyable. Alors qu'est-ce que faisait
quand on dit captif, encore une fois, il y avait cette espèce d'énorme bagne, donc qui était à ciel ouvert et qui était une sorte de ville dans la ville où on jouissait non pas de liberté, comme je disais tout à l'heure, mais en tout cas où on allait et venait. Ça,
on allait venir parce qu'évidemment on pouvait pas contrôler 25 000 captifs, donc au plus fort de la captivité de la part des pirates. Et d'ailleurs l'historien Fernand Brodel avait calculé que l'activité des pirates était telle qu'en fait, les chrétiens au nord, donc de la Méditerranée, donc Espagne d'aujourd'hui, la Provence, la Corse, la Sicile, l'Italie, avaient reculé leur domaine d'activité économique de 5 à 10 kilomètres. C'est pour ça qu'on retrouve aussi des villages fortifiés en Corse, près de Nice ou ailleurs. Alors simplement, oui, c'était une ville, une prison à ciel ouvert, c'était finalement une détention relativement dorée pour certains. Il faut dire aussi que les chrétiens avaient leurs estaminets, ils avaient leurs restaurants, ils avaient leur bordel même, il y avait même des églises, on a même parlé d'un petit tribunal de l'Inquisition, et puis bon, finalement les chrétiens vivotaient, les chrétiens on ne pouvait pas tout le temps les contrôler, ils n'étaient pas donc à fond de cale avec des menottes et des chaînes, etc. Et puis il y avait même une activité économique, c'est pour ça que dans le roman, dans le Barbaresque, Cervantes peut à un moment aller venir en dehors d'Alger, aller voir des Corses qui ont une sorte de petit établissement de plongée sous-marine, si je puis dire, en apnée pour aller chercher des coquillages, et il gagne quelques sous et il va rencontrer sa belle, puisqu'il a eu une relation
amoureuse. La belle Zora.
La belle Zora à Alger.
Alors j'ai quelques scrupules à à ne vous inviter que maintenant, Olivier Weber, parce que l'ouvrage est paru au début de l'année et c'est vraiment un roman d'été. C'est exactement ce qu'on a envie de lire. C'est extrêmement dépaysant. Il se passe des choses très fortes toutes les trois pages. Mais bon, il reste encore quelques beaux week-ends, donc je pense que...
Il n'est jamais trop tard.
Voilà, maintenant, on a un peu la nostalgie du beau temps. Et voilà, cela dit, on ne l'a pas eu du tout cette année. Donc, pour écrire ce roman, vous avez bénéficié de sources qui sont nombreuses. On connaît assez bien la captivité de Cervantes, ne serait-ce que par 2,5 chapitres du Don Quichotte, qui parle, le récit du captif fait partie de l'œuvre même du grand
absolument.
Auteur.
Alors, je dirais qu'il y a énormément de choses sur la vie de Don Quichotte, de Cervantes, du futur auteur de Don Quichotte, mais relativement peu sur Alger quand même. Donc on travaille aussi sur le côté extrapolation avec les récits des prêtres, ceux qui allaient chercher finalement le bétail humain, ceux qui portaient avant l'heure, qui étaient donc les porteurs de valises d'avant la guerre d'Algérie, qui allaient donc porter cette rançon, et puis des récits postérieurs. Et puis on arrive ainsi à remplir des trous. Alors évidemment, il y a ces deux chapitres appelés le récit du captif dans Don Quichotte.
Est-ce qu'on peut dire que cette captivité a joué un rôle dans la maturation de Cervantes et dans sa capacité à écrire l'œuvre immortelle que l'on sait ?
Totalement, parce que pour survivre entre ses 28 et 32 ou 33 ans, Cervantes va faire preuve d'une imagination débordante. Il va réinventer sa vie, puisque sinon il n'aurait pas pu survivre, parce que même si c'était une prison à ciel ouvert, même s'il a pu connaître l'amour, même s'il s'est inventé une mission, puisqu'il a une mission politique pour essayer de rapprocher la face nord de la Méditerranée chrétienne et puis la face sud musulmane, et ce qui nous renvoie d'ailleurs aussi à ce qui s'est passé avec les révoltes arabes, cette entente et cette Mare Nostrum, cette mer qui nous sépare sans nous séparer en même temps qui nous unit. Eh bien,
revenons, Cervantes, si vous voulez, un instant sur cette mission. Ça, c'est assez extraordinaire finalement. Quel était le but à atteindre ?
Bien, grosso modo, Cervantes a voulu s'évader plusieurs fois. Il s'est évadé 5 fois au total, 5 fois il était repris. Il s'est caché dans une grotte qui porte encore son nom.
La grotte de Cervantes.
La grotte de Cervantes, en banlieue d'Alger aujourd'hui, à l'époque à l'extérieur des remparts et de la vieille ville et de la casbah d'Alger. Et donc, 2 fois au moins, il a pratiquement sa tête sur le billot, condamné par le Pacha. Et le Pacha est tellement surpris par le courage de Cervantes.
Oui, parce qu'il prend toujours sur lui toute la faute de ses compagnons,
etc. On était plusieurs, on était entre 2 et 10, selon les tentatives.
C'est moi.
Ne punissez pas les autres, mettez ma tête sur le billot, pendez-moi si vous voulez. Et le Pacha, 2 fois, lui dit, écoutez, on va te donner la vie sauve et les autres seront emprisonnés, mais pas très très longtemps. Donc, quelle leçon de courage. Et puis, dans ce roman, qui est à la fois une intrigue, on va dire, sentimentale, puisque Cervantes connaît l'amour, c'est aussi une intrigue entre les 3 religions du livre, puisque Cervantes, chrétien, dont on dit qu'il a eu des origines juives, un marane, donc un converti par sa famille, un converti à la chrétienté, au christianisme, rencontrant des renégats musulmans, côtoyant des juifs, puisque les juifs à Alger avaient leur comptoir, pouvaient commercer en toute tranquillité, puisqu'ils avaient trouvé refuge lorsque Isabelle la catholique les avait expulsés en 1492, eh bien, je dirais qu'il y avait même une 3e intrigue, qui était une intrigue politique. C'est grosso modo Cervantes, pour répondre à votre question, va dire, je vais non seulement sauver ma tête, mais sauver la tête de la belle Zora que j'aime, et il faut que je quitte ce lieu qui est la ville des Barbaresques. Et donc, il va voir, non pas le Pacha, le chef des pirates, mais il va voir le représentant, une sorte de vazir mortar, d'ambassadeur des Turcs, qui était donc à Alger, puisqu'en fait il est amoureux de sa fille, Zora était la fille de l'ambassadeur, et lui dit, écoutez, il y a trop de rapines sur cette mer, ça vous gêne quand même si vous touchez un écho, même si vous touchez des prébendes et un impôt, il faut faire la paix avec l'Espagne, la France et la Corse et la Sicile. Et l'ambassadeur lui dit, banco, j'en ai marre de ces pirates qui écument la Méditerranée, allons-y. Et donc Cervantes va pouvoir partir vers l'Espagne et retrouver le roi Philippe II. Alors ça, c'est évidemment le travail du romancier, là j'invente évidemment cette mission, mais toujours est-il que ça m'a permis de rebondir sur...
Elle est très actuelle, cette mission, quelque part.
Elle est actuelle, puisque...
En période de printemps arabe, on est...
Tout à fait, et on a bien vu, pendant toutes ces révoltes arabes, jamais n'a été prononcé un slogan contre l'Occident, jamais un slogan contre Israël, jamais un slogan contre les Juifs. On était vraiment, je dirais pas une sorte d'osmose, mais une sorte d'entente, et la mer Méditerranée nous éloigne, mais elle nous rapproche beaucoup, surtout.
Olivier Weber, Le Barbaresque, c'est un roman dont vous avez compris qu'il est à base très historique, et c'est publié par Flammarion. Merci beaucoup, Olivier Weber.
Thank you.